Nous lisons dans Jean 1, 17. Jean 1, 17. Nous pouvons commencer à partir du verset 15. Jean 1, 15 à 17. Il est écrit ceci. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont je dis, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce n'est pas que Moïse était dans la fausseté, mais Moïse n'était pas dans la vérité totale. Donc il fallait donner toute la vérité. C'est pourquoi l'apôtre dit « la grâce et la vérité ». Donc dans la vérité qu'avait Moïse, il manquait la grâce. Donc c'est pourquoi il est dit « Jésus vient avec la grâce, en quelque sorte avec la totale et la totale vérité ». La grâce, c'est quoi ? La grâce, c'est le cadeau, c'est une faveur imméritée, quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est ça la grâce, c'est la gratuité. Et cette gratuité-là fait partie de toute la vérité de Dieu. Donc, si on ne connaît pas Dieu dans la logique de la grâce, donc on ne le connaît pas vraiment. On n'est pas dans la vérité totale. On peut avoir une vision de lui, voilà, plus ou moins à 30%, 40%. Mais pour qu'on soit dans la vérité totale, il faut qu'on connaisse Dieu selon sa grâce aussi. Et cela est simple. Parce que dès le commencement, il en est ainsi. Vous savez, j'ai souvent dit que dans les livres de Genèse, on avait tout ce qui est que. On a toute la Bible dans le livre de Genèse. Parce que dans le livre de Genèse, c'est là que tous les problèmes commencent. Et Dieu donne déjà des idées de solutions. Déjà dans le livre de Genèse, tout est là. C'est un livre très important. Si on veut comprendre toute la Bible, nous devons connaître le livre de Genèse. Parce que nous allons voir que toutes les réponses sont déjà là-bas. Et on se souvient du fameux problème du divorce. Jésus a dit que le divorce n'était pas biblique. Pourquoi ? Parce que dans le livre de Genèse, au chapitre 2, dès le chapitre 2, dès le départ, au verset 24, Dieu dit que l'homme et la femme, quand ils vont se marier, ils vont devenir une seule chair. Donc on ne peut pas diviser une chair. Donc Jésus donne un verset de la Genèse pour répondre aux gens de son époque. Et comment on peut voir la grâce dans la Genèse ? C'est simple. C'est la création. Qui peut dire aujourd'hui qu'il s'est créé lui-même ? Qui peut dire aujourd'hui qu'il s'est fabriqué lui-même ? Personne. Donc rien que notre existence, c'est un cadeau. C'est une action à 100% de Dieu. Donc, dès la Genèse, on voit la grâce de Dieu en action. Notre étude, notre exhortation d'aujourd'hui, c'est la réponse que nous avons à donner à la grâce de Dieu. Est-ce que nous allons faire comme Adam ? Dieu l'a créé, lui a donné autorité sur la création et Adam a voulu rivaliser avec Dieu. C'est le choix que nous faisons ou bien c'est le choix du Fils de Dieu qui est venu. Lui-même, il était Dieu, mais il a choisi de s'humilier et de se laisser crucifier par obéissance à son Père afin de vivre une gloire encore plus grande en tant que Fils de l'homme. On a deux choix par rapport à la réponse à donner face à la grâce de Dieu. Vous savez, la plupart d'entre nous, nous avons connu Dieu plus comme celui qui a fait le code pénal, code civil. Donc, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. C'est pas mal, c'est un bon début, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Dieu est celui qui a donné la vie. Il a créé la vie. Et il avait un objectif en créant tout ça, en donnant la vie. Alors, la vraie vérité, c'est d'être comme une radio, un appareil électrique qui est rien du tout et qui ne fonctionne, qui n'est rien du tout par lui-même que, et qui ne fonctionne que lorsqu'on branche sur le courant électrique. Et la radio ou bien la télévision ou bien le ventilateur reçoit le courant électrique et c'est ce courant électrique qui le fait vivre. Parce que si cette radio commence à compliquer le courant électrique, elle ne peut pas fonctionner. Donc qu'est-ce que Dieu nous demande à nous les humains? C'est de nous humilier, d'accepter que celui qui nous a créés, c'est son cadeau. Et mieux encore, nous les chrétiens, il nous a sauvés encore par grâce. Il nous a créés par grâce, il nous sauve gratuitement encore par grâce. Il nous demande d'accepter, vous savez, comme le morceau de bois qui coule dans une rivière, qui se meut, qui bouge dans une rivière, le morceau de bois suit le courant, tout simplement. Il se déplace en suivant le courant. Nous sommes des bateaux. Vous savez, aujourd'hui, vous connaissez que les bateaux à moteur, mais autrefois, il y avait des bateaux à voile. Donc, pour que ce bateau-là se déplace, il fallait que on positionne plusieurs voiles de manière à recevoir le vent. Donc, à gérer le vent qui était naturel. Donc, sans le vent, le bateau ne pouvait pas se mouvoir. Mais aujourd'hui, nous les humains, nous ne voulons pas suivre le courant de Dieu. Nous voulons faire ce que nous avons décidé de faire. C'est ça le grand péché. Vous savez, le mot péché vient d'un terme qui veut dire rater l'objectif. Donc, tu rates l'objectif de Dieu. Après, tout ce qu'on peut rajouter, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas... Oui, c'est bien... Mais ce qu'il faut comprendre profondément, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a créé comme un cadeau et je n'ai qu'à à me mettre comme un morceau de bois dans son courant pour vivre le bonheur. Un point, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Le péché, c'est le refus de se mettre dans le courant de Dieu, dans le courant d'eau de Dieu. Tu veux faire ce que tu veux, mais c'est pas toi qui t'es créé. C'est la rébellion, c'est ça qu'on appelle la rébellion. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre t'a créé, mais toi, tu prétends te diriger par toi-même. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous n'avez pas vécu ça? Des gens que vous avez beaucoup aidés, ou bien de vos propres enfants, ou bien voilà quelqu'un que vous avez soutenu, ou bien quelqu'un avec qui vous avez été très gentil, mais après qui vous fait du mal, après qui fait voilà, le contraire de ce qu'il aurait dû faire ayant reçu de vous tout ce qu'elle a reçu de vous. Vous avez déjà vécu ça. Eh bien, c'est ce que Dieu a vécu avec Adam. Dieu lui a tout donné, mais à un moment donné, eh bien, Adam décide d'être l'égal de Dieu. C'est ça le vrai problème de l'homme. Le refus de se laisser porter par Dieu qui l'a créé. C'est ça le vrai problème. Alors, vous savez, il y a beaucoup de gens, on commence par le premier problème, le problème de la rébellion, donc qui ont pour réponse vis-à-vis de la grâce de Dieu, utiliser l'intelligence et la vie que Dieu leur a donnée pour se rébeller encore contre Dieu. C'est ce qu'Adam a fait. Ils, ce sont des vrais disciples d'Adam. C'est ce qu'on appelle l'homme charnel. Dieu lui a donné la force. Dieu lui a donné l'intelligence. Dieu lui a donné la voix. Dieu lui a donné la beauté. pour que tout ça serve à quoi? À glorifier le Créateur. Mais lui, il se dit, mais tiens, je suis fort, je suis beau, donc c'est moi qui suis Dieu. Il utilise tout ça pour se rebeller contre Dieu. Imaginez, bien-aimé, que vous allez visiter un humain, vous voyez que sur sa table, là où il mange, il a posé une toile de Van Gogh, de Picasso, et il veut poser les assiettes là-bas pour vous faire manger. Vous allez crier, parce que c'est des toiles, c'est des tableaux qui coûtent peut-être 500 000 euros, 250 000 euros. Toile de Van Gogh, tableau de Picasso. Et le monsieur se met ça sur la table et il commence à poser le café. Vous allez crier parce que vous avez dit, mais ce n'est pas pour ça que ça a été peint. Ça a été peint pour être exposé. Et à partir de là, glorifier son le créateur, le peintre. Donc c'est la même chose. Les anges, quand ils nous voient faire les têtus vis-à-vis de Dieu, les anges, quand ils nous voient pécher, mentir, être jaloux, ils sont dérangés comme la personne qui va aller à une invitation voir que le tableau de Picasso est mis sur la table pour qu'on pose les assiettes dessus. Il dit, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas pour ça que ça a été fait. L'homme est une créature extraordinaire, merveilleuse, créée pour montrer que le Créateur est réellement grand. C'est ça le péché. Le péché, c'est répondre méchamment vis-à-vis de la grâce de Dieu. Dieu t'a créé et tu mènes ta vie comme tu veux. Tu réponds méchamment, comme Adam a répondu méchamment. Vous savez, il y a une fable de La Fontaine, ça parle d'un serpent qui était transi, gelé, il faisait très froid. Et il y a un homme qui le voit en train de mourir gelé, il prend le serpent, il l'amène dans sa maison, et le met près de la cheminée pour qu'il se réchauffe et qu'il reprenne vie et qu'il le lâche. Mais à peine le serpent reprend vie, il a voulu mordre l'homme. L'homme a dit, « Ah, monsieur le serpent, je te voyais mourir et je te prends pour te faire vivre, pour te laisser libre. C'est comme ça que tu réponds à ma gentillesse. » Bien-aimé, il n'a pas loupé. Hein. Il a pris ça s'appelle quoi, tison, hein, tisonnier ou tison. Il a pris cette barre de fer là, il a pris ça, hein, il n'a pas loupé la tête du serpent. Hein. Là maintenant il était mort, c'était plus le foie mais c'était le cou là. Eh bien Dieu ne loupera pas les gens le jour du jugement. Il ne loupera pas. Vous savez, il y a des gens qui diront, c'est faux, moi j'ai été bon. Dieu dira, faites passer le film de sa vie. C'est là que tu vas voir le film de ta vie passer. Tout ce que tu as fait, Dieu dira, voilà ce que tu as été. Ingrat par rapport à la création. Ingrat par rapport à ma grâce. Qu'est-ce que je t'ai fait comme mal? L'erreur que j'ai commise, c'était de te donner l'intelligence. L'erreur que j'ai commise, c'est de t'avoir créé beau, fort. C'est ça mon erreur. Bien-aimé, il est écrit que ce jour-là, les gens s'en iront avec des pleurs et des grincements de dents en enfer brûlé. C'est ça l'erreur que Dieu a commise, c'était de te créer avec une force, avec une beauté. Et tu utilises ça pour dire que c'est toi qui es Dieu, tu fais ce que tu veux. Tu méprises la grâce de Dieu. Bien-aimé, Dieu a fait plus grave. Il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ à la croix. Pour te sauver, sachant que tu avais le péché, il n'en a pas tenu compte. Il n'en a pas tenu compte. Il a dit, l'homme a péché, je l'ai créé, je ne veux pas le perdre. J'envoie mon Fils pour le sauver. Son Fils, qui était Dieu lui-même, il vient en homme pour être maltraité, humilié. C'est ça la deuxième grâce, la grâce du salut. Il y a la grâce de la création, il y a la grâce du salut. Quelle réponse on donne à ça? Oh, moi, je mène ma vie comme je veux. Quoi, bien-aimé? Le jour du jugement, ça sera grave. Vous savez, avant, moi, je faisais partie des gens qui étaient dérangés par l'existence de l'enfer. Je disais, mais c'est quand même dur. Des milliards d'années, les gens vont souffrir dans le feu. Mais depuis que je comprends davantage la parole de Dieu, je fais partie des gens qui sont d'accord pour l'existence du feu éternel. Quand je vois la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Je vois la réponse que l'homme donne à ça. Je dis, c'est normal. Vous savez, nous tous, je nous rappelle encore, pour bien comprendre les choses, souviens-toi de tout ce que tu as fait pour certaines personnes et que ces personnes-là ont répondu à l'opposé. Quelle a été ta réaction? Comme le cas que j'ai cité par rapport à ces serpents-là. Il mourait, le monsieur et on le sort de la mort. À peine il reprend vie, il veut mordre. Il y a une femme que tu prends dans la difficulté, tu l'épouses. Après, devenue très belle, elle te quitte. Elle te laisse dans les problèmes. Quelle sera ta réaction? Bien-aimé, Dieu crée l'homme. Il ne demande pas grand-chose à l'homme. Parce que c'est lui qui crée. Il dit, suis seulement le courant. Vis de ma vie. Mais l'homme, on l'a trompé en disant, mais non, toi aussi tu es grand, toi aussi tu es beau. Bien-aimé, malgré l'évidence, hein, vous savez, il y a des évidences. C'est pourquoi le jugement de Dieu sera sévère. Il y a des évidences, bien-aimé. Est-ce que on a déjà vu un homme qui a vaincu la mort, à part Jésus? Il n'y en a pas. Vous savez, moi déjà très jeune, enfant, quand je pensais à la mort, c'est là que je disais que... Parce que enfant, comme je faisais les études scientifiques, les maths, dans notre classe, presque nous tous, on était orgueilleux parce que c'était la concurrence, il fallait être le premier. Tous, on était orgueilleux. Et dans mon orgueil, je disais, mais le vrai pouvoir, c'est de vaincre la mort. Parce que je peux être milliardaire, je peux être millionnaire, je peux être le plus beau, le plus fort, mais s'il faut mourir, à quoi ça sert tout ça? Déjà païen, je me disais, mais non, celui qui arrive à gagner, à vaincre la mort, qui est le plus fort? Bon, devant cette évidence-là, que toi aussi tu es en train de mourir, tu es en train de vieillir, comment tu peux continuer à résister au Créateur? Vous savez, bien-aimé, il y a des mystères dans l'univers. Le nombre de galaxies, le nombre d'étoiles, c'est des mystères, c'est surtout pour les gens qui font les maths, la physique. Quand on vous explique tout le nombre d'étoiles, la distance qu'il y a entre les étoiles, c'est des complications pour le cerveau. Mais il y a la plus grande complication, c'est la rébellion de l'homme. Je n'ai jamais compris comment l'homme peut se rébeller contre Dieu. Ça, c'est le plus grand mystère. Et d'ailleurs, c'est écrit dans 1 Thessaloniciens, c'est 2, au chapitre 2, c'est le mystère de l'iniquité. C'est le mystère de l'iniquité, c'est le mystère du mal. Comment un homme peut se rébeller contre son Créateur? Ça, je n'ai jamais compris. Comment un homme peut prétendre résister à son Créateur? Faire ce qu'il veut. C'est tellement logique de se laisser gérer. C'est ce que Dieu se compare au potier. Dieu dit à Jérémie, est-ce que quand le potier travaille son vase, est-ce que le vase résiste? Pourquoi vous, enfants d'Israël, vous résistez quand moi je veux vous travailler? Ce n'est pas logique. C'est une grosse rébellion. Et beaucoup répondent comme cela à la grâce de Dieu. Plus grave encore, ceux qui ont connu l'évangile. C'est pourquoi Paul dit ceci dans Hébreux 10. On va lire dans Hébreux 10. Hébreux 10, 29. Il dit ceci. Au verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Sur la déposition de deux ou de trois témoins. Vous savez qu'il y avait certains péchés, quand tu commettais ça, dans l'Ancien Testament, c'était écrit que tu étais, soit on te lapidait, soit on te mettait à mort d'une manière ou d'une autre. Donc celui qui pêche contre cette loi-là que Moïse a donnée, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, voilà, il meurt. Juste quand deux témoins approuvent, confirment ce qu'il a fait. Et Paul dit au verset 29, « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce ?» Paul dit, « Celui qui outrage l'Esprit de la grâce. » C'est ça notre thème, l'Esprit de la grâce. La gratuité. Vous savez, un de nos arguments, quand on était dans le péché, pour ne pas venir à Dieu, c'était de dire, je suis incapable d'honorer sa parole. Comme je suis incapable d'être bon, je préfère ne pas venir à lui. Ça, c'est l'homme sans la grâce. Maintenant, quand on nous informe que Dieu a envoyé son Esprit Saint pour nous donner la capacité de lui être agréable, on n'a plus d'arguments. On ne peut plus dire « Je fuis Dieu parce que je serai incapable d'obéir à sa parole. » Je fuis Dieu, il y en a même qui disent « Mais moi, ce n'est pas de ma faute. Il y a le péché en moi que ça vient, les tentations, ça vient. Et moi, je suis faible. La faute, c'est à qui ? C'est à celui qui m'a créé, puisque je suis faible comme ça. C'est faux. La faute n'est pas à celui qui t'a créé. La faute est à ton ancêtre, Adam, qui a péché, qui s'est rebellé contre le Créateur, et tu as hérité de sa nature de péché. Maintenant, Dieu n'a pas tenu compte de ça. Il a envoyé son Fils Jésus. Pour être condamné à ta place à la croix, on l'a crucifié à ta place. La condamnation que toi tu devais subir, lui il a subi ça à la croix. Maintenant, il est ressuscité le troisième jour et il a fait appeler l'Esprit de Dieu en action. La récompense que Dieu donne au sacrifice de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la grâce. Cet Esprit-là est envoyé sur terre pour soutenir tous ceux qui veulent s'humilier et revenir à Dieu et lui être agréable. Et c'est cet esprit-là qui va fonctionner en toi, qui va t'aider à prier, qui va t'aider à aimer Dieu, qui va t'aider à aimer les autres. Alors, Paul dit, si déjà par rapport à la loi de Moïse, on est puni sévèrement, mais les gens qui refusent le cadeau de Dieu, l'Esprit de la grâce, le cadeau de Dieu, l'œuvre de Jésus à la croix, ils seront davantage punis. Les gens qui disent « ce n'est pas de ma faute, c'est mon voisin qui me rend mauvais, ce n'est pas de ma faute, c'est mon mari, c'est ma femme qui me… » Tous ces gens-là n'ont pas de justification parce que l'Esprit de la grâce est là. La puissance de Dieu est disponible. Ils nous demandent tout simplement de faire la prière suivante. « Seigneur, je sais que tu attends de moi que je sois comme toi. Mais moi-même, je ne peux pas. Mon corps, mon âme aime encore le péché. J'aime faire telle chose qui est mal. J'aime ceci. J'aime la mode. J'aime la cigarette. J'aime encore l'impudicité, la débauche. J'aime ça, Seigneur. Mais au fond de moi, je me rends compte que je ne suis pas satisfait et que ce que toi tu dis est bon. Au fond de moi, je trouve logique quand même que je t'appartienne à toi. Alors Seigneur, aide-moi. C'est tout ce que Dieu nous demande. Et quand tu vas dire aide-moi, l'Esprit de la grâce travaille en toi. Vous savez, souvent les gens me posent la question, comment tu pries, comment tu lis la parole, comment tu peux recevoir les prédications, comment, je leur dis toujours, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ma seule réponse, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui va t'entraîner à prier. C'est la grâce de Dieu qui va te donner la parole. C'est la grâce de Dieu qui va te prévenir de danger. C'est la grâce de Dieu qui va te nourrir. Mais comment refuser une telle facilité? Bien aimé, c'est à devenir. Moi, ça me rend fou quand je pense que les hommes refusent ça. Ils préfèrent faire ce qu'ils veulent. Dieu ne te condamne pas parce que tu as le péché en toi. Il te condamne parce que tu refuses son aide. Comme celui qui est malade refuse le médicament. Voilà ce que tu peux être. Dieu ne te condamne pas quand la femme qui était pécheresse, une femme adultère, on voulait lapider cette femme. Jésus arrive là. On dit à Jésus, la loi nous recommande de lapider cette femme parce qu'on l'a trouvée, on l'a surpris en flagrant délit d'adultère. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Parce que vous êtes tout aussi condamnable que cette femme. Il n'y a pas de petit péché. Il y a des pays où il y a un péché qui est considéré comme bon. En France, ça peut être la gourmandise. On voit sur les paquets de biscuits gourmands. Donc certains yaourts, c'est écrit gourmand. Donc la gourmandise ici, les humains ont considéré que ce n'est pas un péché. Il y a des pays comme en Afrique, le mensonge est considéré comme normal. Oh, c'était un petit mensonge juste pour... Voilà. Donc, quelqu'un peut faire une veillée de prière de 5 heures du temps. Le matin, on l'appelle devant toi. Il dit, oh, mais je suis déjà à 5 minutes de chez toi, alors qu'il est à 1 heure. Mais il vient de la prière, donc tranquillement. Et il y a même des pasteurs qui mentent comme ça. On m'a raconté qu'un pasteur, il était en Belgique, on l'appelle de la Hollande parce qu'il avait un rendez-vous là-bas, il avait oublié. Au lieu de dire, j'ai oublié, pardonnez-moi, il dit, oh, mais... Non, il était toujours en Hollande plus tôt. Il dit, oh, je me trouve ici en Belgique, il y a eu un cas urgent. Et quand il raccroche, il dit à son voisin, tu as vu comment je l'ai tapé, hein? Voilà. Donc, mais quelqu'un qui... Donc, il y a des endroits où certains péchés sont considérés comme étant pas de péché, mais c'est des péchés. C'est grave. C'est grave parce qu'il est écrit, soyez saints comme votre Père est saint. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu vas prier dans les assemblées, tu escroques tes amis, tu es méchant envers tes enfants. Non, c'est le péché. C'est le péché. Esclave de la mode, c'est le péché. Griller le feu rouge, c'est le péché. Bien-aimé. Maintenant, Dieu te dit, je sais que tu es dans un monde de péché et que c'est difficile. Mais c'est simple. Accepte ma grâce. Accepte que moi, je travaille en toi. Demande mon aide. Alors, bien-aimé, vous savez, il y a un verset, Jean 8, 23, 24, Jésus dit, si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. Ça veut dire quoi? On a, nous tous, un virus qu'on appelle le péché. Et le médicament, la solution radicale, ce n'est pas n'importe quel médicament. Vous savez, les médicaments, on les prend et ils vont lutter à l'intérieur, mais le médecin, lui, il est dehors. Et parfois, certaines maladies, tous les microbes ne sont pas tués. Ça revient plus tard. Mais Jésus, c'est le médicament, il entre en toi, il détruit l'œuvre de Satan. Lui-même. Alors, il nous dit ceci. Je sais que c'est difficile pour toi d'être comme moi. Je sais, par tes propres forces, c'est impossible d'ailleurs. C'est même impossible. Mais je te propose mon aide. Et avec mon aide, tu seras vainqueur. Mais bien aimé, après là, si tu amènes tous tes arguments pour dire, bon, ceci, cela, tu seras jugé sévèrement. Quoi que tu dises, vous savez, dans le camp de concentration, là où on tuait les Juifs, il y en a qui ont renié Dieu parce qu'ils ont dit la souffrance est trop grande. Ce n'est pas normal. Si Dieu existe, il ne peut pas permettre une telle souffrance. Mais quand tu vois ton enfant qu'on amène dans la chambre à gaz pour aller être exterminé, tué, beaucoup ont dit non, si Dieu existait, il ne peut pas permettre des choses horribles comme ça. Mais dans le même camp de concentration, il y en a qui se sont convertis. Comment expliquer ça? C'est que Dieu a la capacité, quelle que soit la situation, de te donner une puissance qui te donne la paix, la sensation qu'il est vainqueur, que les choses ne vont pas s'arrêter là. Il y a une éternité qui nous attend. On n'a pas de justification, bien-aimé. Dieu a donné son Fils. Il n'y a pas de justification. Il faut arrêter à faire gauche-droite, faire des arguments et continuer à pécher. Non! Il faut décider une fois pour toutes, Seigneur, j'ai échoué, mais je sais que ce n'est pas la vie que tu veux pour moi. Tu ne veux pas une vie de colère pour moi. Répondons oui à la grâce de Dieu, bien-aimé. Arrêtons la rébellion. Il y a des chrétiens qui répondent non à la grâce de Dieu. Ils ne veulent pas que ça soit gratuit. J'ai beau leur dire que c'est par grâce. Ils vont toujours chercher à savoir quelle méthode il faut faire. Il n'y a pas de méthode. Il y a Dieu. C'est ça qu'il y a. N'est-ce pas dans Jean chapitre 3, qu'est-ce que Jésus dit? Là, je parle aux chrétiens qui veulent briller par eux-mêmes. La Bible dit dans 1 Corinthiens 4, 7, qu'est-ce que tu n'as pas reçu? Lisez 1 Corinthiens 4, 7. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu? Pourquoi te glorifier? Vous savez, même le païen, ce qu'il est, c'est Dieu qui a donné. Qu'il soit le plus grand sportif, qu'il soit... mais c'est la grâce de Dieu. La création, c'est Dieu, 1 Corinthiens 4, 7. Donc pourquoi je vois des chrétiens qui se battent pour les premières places? Mais c'est honteux, 1 Corinthiens 4, 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Non, que tu sois intelligent à l'école, rapide dans la course, c'est le cadeau de Dieu. Sois humble comme quelqu'un qui a reçu. Ne sois pas orgueilleux comme quelqu'un qui a produit par lui-même. C'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui répondent mal à la grâce de Dieu, qui veulent se glorifier. Il y a des chrétiens qui cherchent des méthodes. Lisons Jean 3. Qu'est-ce que dit le Seigneur Jean 3? Il dit à Nicodème, qui cherche à comprendre la nouvelle naissance, Jésus lui dit, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, au verset 7, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Qu'est-ce que Jésus dit par là? Le plus important, c'est que l'Esprit de Dieu te saisisse. Si l'Esprit de Dieu te saisit, il t'entraînera à prier, il t'entraînera à lire la parole. C'est l'Esprit de grâce. Quand il te saisit, il va te faire accomplir les œuvres de Dieu. Il y a des gens qui sont embêtés, par exemple, parce qu'ils pensent qu'ils ont un talent que les humains ne voient pas, on ne fructifie pas ça à l'église. Mais non, ça contredit la parole. Dieu dit, l'Esprit t'amènera comme le vent. Tu ne sais ni où il va, d'où il vient, ni où il va. Donc tu ne t'appartiens plus, l'Esprit t'entraîne. Est-ce que David a décidé de battre Goliath? Ou c'est l'Esprit qui l'a amené sur le champ de bataille? C'est l'Esprit qui l'a amené sur le champ de bataille. Ce n'est pas lui qui a décidé. Il ne savait même pas que Goliath existait. Pourquoi chercher à se valoriser? Pourquoi chercher à se conduire en tant que chrétien? Faire trop de projets personnels? Non. Nous nous laissons inspirer par Dieu. Maintenant, s'il y a des idées, nous disons, Seigneur, si c'est ta volonté, je vais dans cette idée-là. Si ce n'est pas ta volonté, tu m'arrêteras. L'Esprit souffle. Où il veut? C'est l'action du Saint-Esprit. Ça montre réellement que nous sommes qui? Nous sommes ces créatures. Bien-aimé, imagine que ton couteau à la maison décide d'être libre, de faire ce qu'il veut. Je crois que tu vas prendre toute ta famille, tu vas sortir et toi-même tu fuis. Tu dis, mais le couteau dit, à partir d'aujourd'hui, je fais ce que je veux. Mais bien-aimé, tu vas t'habiller en armure métallique, parce que tu sais, il dit qu'il fait ce qu'il veut. Donc il peut venir vite sur mon cou. Mais voilà ce que les hommes disent, je fais ce que je veux. Maintenant, il y en a qui disent, mais moi je n'ai pas dit je fais ce que je veux, mais en réalité c'est ce qu'il fait. Parce que les décisions qu'il prend, les positionnements qu'il prend, les directions qu'il prend, il ne demande pas au Seigneur. Il ne s'attend pas au Seigneur. Il ne dit pas comme ça, je fais ce que je veux, mais en réalité, c'est ce qu'il fait. Il ne suit pas ce qui est écrit dans la parole. Mais il suit ce que son cœur a décidé de suivre. C'est mépriser la grâce de Dieu. Quelle réponse ? Une réponse négative. Il y a des gens qui répondent mal à la grâce de Dieu. Ils n'arrivent pas à pardonner aux autres. C'est une mauvaise réponse à la grâce de Dieu. Bien-aimé, moi je pardonne facilement quand je me souviens d'où je viens et comment Dieu m'a sauvé. Je me calme. Je dis, ah, bon, ils n'ont qu'à me taper, ce n'est pas grave. Parce que je me dis, si moi, je leur tenais rigueur de ce qu'ils m'ont fait, mais Dieu me tiendra rigueur de ce que moi je lui ai fait aussi. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans Marc 11, 25. Si vous ne pardonnez pas, moi non plus, je ne vous pardonnerai pas. C'est l'esprit de la grâce. Comment toi, tu as été sauvé par grâce? Tu veux que l'autre mérite ton pardon. Ah mais non! Puisque toi, tu n'as pas mérité le pardon. Vous savez, moi, je me sens heureux quand il y a des chrétiens autour de moi. Mais il y a des gens qui ne sont pas heureux quand il y a des chrétiens autour d'eux. Ah, l'autre a fait ceci. Ah, non, mais non. Où est l'esprit de la grâce? Je me sens. Il faut être heureux même autour des humains. Même pas seulement les chrétiens. Autour des humains. Tu vois un humain, tu dis, aïe, c'est la personne pour laquelle Jésus-Christ a été crucifié à la croix. La grâce de Dieu est sur lui. Parce que Jésus a été crucifié pour nous tous, pour toute l'humanité. Il y en a quand ils voient les Arabes, ils ne sont plus à l'aise. Oh, bien-aimés, c'est des gens que Dieu a sauvés, que Dieu veut sauver. Comme pour toi, Jésus a été crucifié aussi pour eux. Surtout quand ils ont une longue barbe, ah, c'est fini. Non! Et la grâce de Dieu, c'est aussi pour eux. La grâce de Dieu, c'est pour les méchants voisins qui ne nous disent pas bonjour dans les immeubles où nous habitons. Les méchantes voisines qui promènent leurs chiens, qui s'énervent quand ils entendent nos enfants chahuter. La grâce de Dieu, c'est pour elles aussi. Vous savez le chant que j'aime, non ? De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Bien-aimés, imaginez que vous organisez une grande fête, vous achetez vous louez le plus grand traiteur, il fait des mets excellents. Les gens viennent, ils ne mangent pas. Quelle déception! C'est ça la déception de Dieu quand les gens résistent à sa grâce. La grâce de Dieu, quel mets succulent. Il y a un psaume où le psalmiste dit, tu es comme des mets succulents, des mets gras et succulents. À ta droite, Seigneur, tes délices sont éternels. Tes délices sont éternels. Si nous sommes face à la grâce de Dieu, ne répondons pas négativement. Répondons oui à la grâce de Dieu. Disons, Seigneur, aujourd'hui, je te laisse prendre le contrôle de ce que toi-même tu as créé. Prends ma vie et dirige-moi. Bien-aimé, est-ce qu'aujourd'hui, sachant que vous avez 10 millions d'euros qui vous attendent à la fin du mois, si quelqu'un vous volait 50 euros dans un métro ou quelque part, est-ce que vous allez vraiment vous fâcher? Non. Oh, c'est pas grave. J'attends 10 millions dans 5 jours, là. Si nous répondons oui à la grâce de Dieu, nous allons voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire les choses qui nous attachent à la terre. L'argent, les vêtements, la nourriture, la mode, le mensonge, le fait que les gens nous adulent, nous aiment. Nous voulons ça sur la terre. Mais quand tu es déjà rempli par l'amour de Dieu, tu n'as plus besoin de ça. Quand tu es rempli de la grâce de Dieu, c'est toi qui commences à aller vers les autres. Vous savez, il y a un monsieur qui expliquait que, concernant la fille là qui est emprisonnée là parce que qui est en garde à vue parce qu'elle aurait poignardé son copain, il y a un monsieur qui expliquait que ce sont des gens qui ne font rien du tout. Maintenant, ils font des bêtises. C'est grâce à ces bêtises là que il y a des émissions qui se font. Maintenant, ces gens-là pensent que les gens les aiment réellement, alors que les gens rigolent, ils ont de la curiosité par rapport à leurs bêtises. Maintenant, ces gens-là pensent que, comme on les regarde beaucoup, on les aime. Et donc, ils cherchent, dans la vie de tous les jours, auprès de leurs copains, auprès de leurs membres de famille, recevoir cet amour-là qu'ils pensent recevoir par la télé, vu que les gens les regardent. Et ils se rendent compte que les gens ne les aiment pas et ils sont troublés, ils sont dans la cocaïne et ils finissent par le suicide. Parce qu'ils se rendent compte que les gens profitent d'eux, mais il n'y a pas d'amour réel. C'est ça, bien-aimé. Alors, tout ça, la popularité, quand tu es dans la grâce de Dieu, tu vas voir tout ça comme rien du tout. Dieu va t'ouvrir les yeux pour contempler les gens qui sont dans ce système-là. Sont-ils vraiment heureux? Sont-ils vraiment satisfaits? Ils ne sont pas satisfaits. C'est argent sur argent et ça ne finit pas. Les gens qui ont plusieurs femmes, sont-ils vraiment heureux? Sont-ils vraiment heureux? Les gens qui fument, quel que soit le produit qu'ils fument, sont-ils vraiment heureux? Le Seigneur te montrera qu'ils ne sont pas satisfaits. Ils ne sont pas satisfaits parce qu'il faut continuer, continuer, continuer. C'est pourquoi Jésus dit « Quiconque le mange n'aura plus faim. » Donc tu y es au terminus avec le Seigneur. Ça ne donne pas le bonheur, toutes ces choses-là. Ça peut donner le plaisir pendant un temps. Regardez par exemple Dominique Strauss-Kahn, comment il a perdu un poste de président parce qu'il s'est laissé être esclave de l'impudicité. Souvent, il y en a qui croient qu'ils vont gérer le mal. Je vais m'arrêter à tel niveau. Le mal, ça ne se gère pas. C'est écrit dans 1 Timothée 3, 13 que ceux qui font le mal iront toujours plus loin. Le mal, ça ne se gère pas. On se permet, on se dit, bon, je m'arrêterai là. Non. Et une semaine avant, lui-même avait dit que là où on peut m'avoir, c'est de ce côté-là. Mais oui, mais malgré son intelligence n'a pas pu maîtriser son esclavage face à ces choses-là. C'est ça la réalité du mal. Le plus petit mal que tu autorises, ça t'amènera loin. Quand on reçoit la grâce de Dieu, on réalise que toutes ces choses-là n'apportent pas le bonheur total. Nous ne nions pas que ça peut apporter un plaisir passager. Ça peut apporter une gloire passagère. Tu marques un but, tu es applaudi. Mais deux semaines après, lorsque tu ne fais rien lors d'un match, tu sors, le public qui t'avait applaudi commence à te huer. Ce sont des choses passagères. Tu te rends compte, bien-aimé, même la force physique, c'est passager. Où est Schumacher aujourd'hui? Il n'a même pas 50 ans. Même pas 50 ans. Un homme physiquement fort. sept fois champion du monde de Formule 1, le seul. Voilà comment il se retrouve comme un légume. Donc même la force physique que tu as, c'est Dieu qui permet que tu te tiennes debout. C'est la grâce de Dieu. Réponds oui, mais si Dieu me donne la vie, que cette vie serve à Dieu. Mais il y en a qui disent, mais c'est douloureux de servir Dieu. Mais il faut dire pardon quand on a mal fait. Il faut accepter de pardonner aux méchants. La grâce de Dieu te donnera toutes ces capacités-là. C'est tout, c'est ça la réponse. La grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu te donnera tout ça. Tu pourras pardonner. Tu pourras. Mais il y en a qui diront, mais j'accepte la grâce, mais je continue à être tenté par telle chose. Oui, c'est ça qu'on appelle la persévérance. Persévère et la victoire est au bout. Continue à croire. Mais fais le choix, bien-aimé. Fais le choix. Les jours sont difficiles. Réponds positivement à la grâce de Dieu. Réponds positivement. Dis oui à la grâce de Dieu. Le Seigneur veut te combler. Le Seigneur veut te combler, veut que tu sois heureux. Est-ce que vous n'avez pas connu des gens qui ont été riches ou bien qui ont été puissants à un moment et quand ils ont perdu leur poste ou bien un peu leur richesse, tous les amis les ont quittés. Les gens qui t'applaudissent aujourd'hui, les gens qui t'élèvent aujourd'hui, le jour où ils trouveront quelqu'un de plus fort, ils changeront. Et tu seras le dernier. L'argent, toutes ces choses-là. La colère. Vous savez, il y a des gens pour qui la colère, c'est comme une sorte de cigarette, une sorte de whisky. Hein. Quand il est en colère, il se sent bien. Mais non, bien-aimé. La colère ne fait que rajouter ride sur ride. Et un jour, tu vas faire une grosse bêtise. Soyons dans la grâce divine. La grâce de Dieu t'amènera à pardonner les autres. Tu diras, bon, puisque moi-même je profite de cette grâce, pourquoi pas eux? Pourquoi pas eux? La grâce de Dieu t'enlèvera toute inquiétude. Tu te diras, bon, Dieu me porte, pourquoi m'inquiéter? Hein, le psaume 23, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que Dieu est avec moi. C'est ça la grâce de Dieu. Il n'y a pas de méthode. Les chrétiens ont perdu la notion de la grâce de Dieu. Vous savez, nous, quand on était jeunes chrétiens, c'est vrai, on a entendu toutes sortes de prédications où les gens qui nous ont précédés, qui ont des églises de 10 000, 5 000 personnes, disaient, voilà, moi je prie de telle manière, je m'élève, je fais ceci, je fais cela. Et nous tous, on cherchait à être comme eux, à faire des grandes choses et... Ils nous ont écartés de la grâce divine. Si nous voulons expérimenter la gloire de Dieu, nous devons revenir à la grâce de Dieu. Les méthodes, ce ne sont pas de Dieu. L'Esprit de Dieu nous guidera. L'Esprit de Dieu nous disciplinera. Nous ne sommes pas contre la discipline, mais nous sommes contre les méthodes. Nous devons faire les choses d'une manière régulière, mais par la force de Dieu, par la grâce de Dieu, mais pas parce que nous, en faisant les choses, c'est là que Dieu va se rapprocher de nous. Non, Dieu s'est déjà rapproché de nous. Laissons-nous conduire par son courant. Laissons-nous conduire par son esprit. Laissons-nous porter par lui. Mais quand on veut établir des méthodes pour bien réussir, pour faire ceci, cela, on veut prendre la place de Dieu. On ne répond pas oui à sa grâce. Répondons oui à l'esprit de la grâce de Dieu. L'esprit de la grâce nous fera voir l'autre comme un futur frère, une future sœur. Et on va bien le traiter. L'esprit de la grâce nous donnera la confiance par rapport au matériel. Dieu s'occupe de nous. Il dit dans Matthieu 6, 33, 24 à 33, mais je m'occupe des moineaux, je m'occupe des oiseaux, je m'occupe des plantes, et vous les humains, Ne m'occuperai-je pas de vous? Je vous ai créé à mon image. C'est ça la grâce divine. C'est pourquoi, bien-aimé, moi je ne force pas les gens à venir prier. Je ne force pas les gens à venir servir le Seigneur. Je parle des gens, là, les gens qui se disent chrétiens. J'estime que si quelqu'un vit dans l'esprit de la grâce, l'esprit le poussera à faire tout ça. Quelquefois, nous rappelons qu'il faut prier, il faut lire la parole. Mais le plus important, c'est la réponse que tu as donnée fondamentalement à Dieu concernant sa grâce. Qu'as-tu répondu par rapport à sa proposition? Est-ce que tu lui as dit un jour, « Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te laisse faire, je te laisse travailler ma vie, prends le contrôle total. » Dieu s'occupera. Il y aura des temps de difficultés, mais Dieu sera toujours là. Il y a un chant qui dit « Chaque jour, chaque nuit, le matin et le soir, je t'appelle et tu es là. » Ça, c'est la grâce de Dieu. Où que tu l'appelles, il est là. Au moment où tu veux te fâcher, tu l'appelles. Chaque jour, chaque nuit, le matin et le soir, je t'appelle. Tu es là. Quand la voiture ne démarre pas, tu l'appelles. Chaque nuit, chaque jour, le matin, je t'appelle, tu es là. Il va être toujours là. C'est ça la grâce de Dieu. Elle nous accompagne partout où nous allons. De la croix, la grâce coule comme un fleuve. Pourquoi ne pas utiliser ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez, au début, les apôtres, ils ont fait des grandes choses. Ils ont prêché et 2000, 3000 personnes se convertissaient. Mais quand vous lisez les écrits dans les actes des apôtres, dans la suite, c'est écrit, nous sommes arrivés dans tel endroit, nous avons prêché et ceux qui devaient se convertir se sont convertis. Ils avaient pris conscience que c'est Dieu qui pilotait tout. Au début, peut-être, ils pouvaient penser que parce qu'ils avaient prêché avec puissance et éloquence, c'est pourquoi il y avait eu 2000. Mais en grandissant, ils avaient compris que en réalité, c'est Dieu qui pilotait. Vous savez, nous, quand on était jeunes dans la foi, on croyait toujours que bah, quand il y a des miracles, bah, c'est là que les gens sont touchés, sont changés. C'est faux. C'est Dieu qui touche. Il sait comment il s'y prend. Vous savez, il y a vendredi, j'ai reçu quelqu'un qui n'est pas encore chrétien et qui pose des questions avant de se convertir ou pas. Vous savez, quel était son blocage par rapport à la conversion? C'est le miracle. J'étais surpris. J'ai dit, mais dans notre pensée, on croit que ben, le miracle, c'est ça qui va faire que les gens reconnaissent que Dieu est grand. Mais elle, la personne, son blocage, c'est qu'elle trouvait que le miracle, c'est exagéré. Comment quelqu'un peut guérir comme ça instantanément? Comment quelqu'un, un aveugle peut voir? C'est que nous, on croyait que c'est une force. Hein? Mais là, hier, vendredi soir, c'est devenu une faiblesse devant moi. Il fallait que je trouve, il fallait que Dieu me donne autre chose à répondre. Bien-aimé, c'est Dieu qui touche. Tu vas croire que c'est de telle manière? Non. Le Seigneur dit dans 2 Corinthiens 4, 6, Zacharie 4, 6, ce n'est ni par la force, ni la puissance, c'est par mon esprit. C'est l'esprit de la grâce. Et maintenant, quand les apôtres prêchaient, ils disaient ceux qui devaient se convertir, parce qu'ils savaient que Dieu les utilisait pour parler, mais Dieu faisait lui-même. C'est l'esprit de la grâce. Il veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Ils n'insistaient pas charnellement. Ils faisaient ce qu'ils devaient faire. Sachant qu'il y a l'esprit de la grâce qui contrôle tout. Bien-aimé. C'est ça la réalité. J'étais confondu. J'ai dit, mais tiens, c'est curieux ça. Donc l'obstacle de la personne, c'est le miracle. Je dis, mais tiens, je croyais que le miracle, ça devait faciliter tout le monde à venir au Seigneur. Mais non, pour les autres personnes, là, c'était ça son obstacle. Et c'est là que je me suis rendu compte, c'est vraiment Dieu qui doit toucher un cœur. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un système. Bien-aimé, réponds oui à l'esprit de la grâce. Comment on répond oui à l'esprit de la grâce encore en tant que chrétien? C'est être tout le temps joyeux. 1 Thessaloniciens 5, 16, soyez toujours joyeux, puisque Dieu s'occupe de toi. Pourquoi tu peux être triste? Dieu s'occupe de toi. Tout ce qui est, Philippiens 4, 6 à 7, ne vous inquiétez de rien. tous les sujets d'inquiétude, amener ça dans la prière. Et il dit que la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos pensées en Jésus-Christ. Quand quelque chose t'inquiète, demande, parle au Seigneur. Parle au Seigneur pour tout, bien-aimé. Si tu penses que ça fait longtemps que tu as mangé une pizza, dis ça au Seigneur. Mais ça fait longtemps quand même, Seigneur. Ne vous inquiétez de rien. On répond oui à la grâce de Dieu quand on dit, ben Seigneur, je t'apporte tous mes sujets d'inquiétude parce que tu t'occupes de moi. La grâce de Dieu, ce n'est pas seulement pour nous sauver, mais c'est pour nous faire fonctionner aussi. C'est ce que Paul appelle l'esprit de la grâce. Ce n'est pas seulement pour nous sauver. Et cette grâce-là va te donner la nature divine, des envies qui viennent de Dieu. Notre chair est toujours là. Il y aura des envies qui viennent de Satan. Il y aura des envies qui viennent du corps. Mais quand tu vas balancer ça, quand tu vas voir avec la grâce de Dieu, ça ne tiendra pas. Ce qui tenait autrefois quand tu étais dans le monde, face à la grâce de Dieu, ça ne tiendra pas. C'est pourquoi Paul dit, c'est terrible, tous ceux qui vont être jugés après avoir connu la grâce. Leur jugement sera terrible. Tu as entendu la parole des centaines de fois. Mais tu négliges la grâce de Dieu. Tu sous-estimes la puissance de Dieu. Bien-aimé, il y a des choses dont on se dit, je ne pourrais pas m'en passer. C'est faux. Dieu ne te demande pas d'être capable de t'en passer. Il te demande de lui demander son aide. C'est tout. Est-ce que c'est difficile de dire « aide-moi » ? C'est pourquoi c'est écrit dans Romains 10, 13. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Qu'est-ce que ça veut dire « quiconque invoquera le nom du Seigneur » ? Ça veut dire que quiconque demandera l'aide du Seigneur. C'est ainsi que le voleur à la croix, quand il a dit « Jésus, souviens-toi de moi », il a été sauvé à l'instant. Dieu ne te demande pas de triompher par toi-même et de venir à lui. Il te demande de demander son aide. Pourquoi tu ne le fais pas? Et tu ne vis pas la gloire de Dieu. Il n'y a pas de méthode, tu vas donner ceci. Il y en a qui disent, donne à Dieu beaucoup, tu recevras beaucoup. Et les gens, ils donnent avec une logique mercantile. Je vais donner à Dieu et puis comme ça, il va multiplier. Non! La grâce de Dieu te fera comprendre. Oh, mais ce que j'ai, vous savez, David a dit, mais ce que nous te donnons, c'est ce que toi-même tu nous as donné. La grâce de Dieu dit, oh, mais ce que j'ai, je ne pensais pas l'avoir. Comment ça se retrouve dans mes mains? Mais c'est Dieu. Ah, ben je lui redonne. Ben, je lui redonne, puisque de toute façon, il s'occupe de moi. Il n'y a pas une idée mercantile, ah, il va multiplier, je vais être riche. Non. Je lui donne parce que c'est lui qui m'a donné. Voilà ce que David disait. David ne disait pas, je donne et puis je deviendrai riche. Même si c'est une loi spirituelle, on n'en disconvient pas. C'est vrai. Celui qui sème, récolte. Celui qui sème peu, récolte peu. Celui qui sème abondamment, récolte abondamment. C'est une loi spirituelle. Mais nous, dans quel état nous devons être? Dans un état de grâce. Dieu m'a donné gratuitement. Moi, je donne. Parce que je sais qu'il s'occupe de moi. Et moi, je lui exprime mon amour en lui donnant le meilleur. Voilà. C'est pour exprimer son amour, sa reconnaissance envers le Seigneur. Alors, dernière manière de répondre positivement à la grâce de Dieu, c'est le servir, c'est le louer, c'est le remercier à tout moment. Et le servir. C'est ça. Quand je lis les psaumes, je dis, oh là là, le monsieur avait compris qui était Dieu. Il avait compris qui était Dieu. Nous avons un chant, on chante, la terre est dans la joie. Le jour où Dieu viendra dans son règne de 1000 ans, Jésus viendra dans son règne de 1000 ans, la terre sera dans la joie. Ce jour-là, les gens diront, oh, il est là. Vous savez, quand Jésus était au désert, en faisant son jeûne, les animaux, il est écrit que les animaux sauvages l'entouraient. Ils étaient dans la joie. Le maître était là. Nous nous attendons ce jour-là où enfin on aura le président véritable qu'on a toujours voulu avoir, le Seigneur Jésus lui-même. Nous lisons le psaume 67. Nous allons lire quelques psaumes qui élèvent le Seigneur. Parce que ces gens qui ont écrit ça, ils ont compris sa grandeur et sa grâce en même temps. Ils ont compris qu'ils lui devaient tout. Vous savez, il y a des gens qui ont peur de venir au Seigneur, de se livrer à lui. Parce que c'est ça la conséquence quand tu comprends l'esprit de la grâce. Tu te livres entièrement. Quand, si on te dit par exemple, on veut te bénir, on veut t'offrir des choses, mais il faut que tu ramènes des valises. Autant que tu veux. Si tu as 15 valises chez toi, tu vas en amener combien chez la personne qui veut remplir les valises? 3. Ben non, tu vas ramener les 15. La grâce de Dieu, c'est comme un fleuve. Maintenant, je dois remplir ma vie de cette grâce. Je vais amener seulement le bras? Non. Je vais amener seulement la tête? Non. Je vais amener seulement les pieds? Non. Je vais amener le mariage. Je vais amener mes enfants, je vais amener mes voitures, je vais tout amener, dire, ben, je livre tout à l'esprit de la grâce. Qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il remplisse ça de la gloire de Dieu. Il y a des gens qui n'amènent qu'une chose, leurs pieds, viennent à, leurs pieds et leur température de 37 degrés dans la salle. Mais tout le reste, ils ont gardé pour eux, ça va rester sec. Pendant un temps, ça va paraître avoir quelque chose, mais en réalité, c'est ta mort que tu es en train de construire. Parce que tout ce qui n'est pas lié à la grâce de Dieu finira par la mort. Mais ce qu'on a confié à la grâce de Dieu produira la vie éternelle. Dès maintenant. Dès maintenant, bien-aimé. Alors, il faut livrer tout. C'est la conséquence de la grâce. Quand j'ai compris mais la grâce du Tout-Puissant, mais je donne tout. Ma jeunesse. Je donne. Il dit, ah, le plus tôt possible que Dieu me gère. Comme ça, il remplit ça de sa gloire. Le plus tôt possible. Mes cheveux, que Dieu gère. C'est la vérité, bien-aimé. Les produits ne finiront pas. Il y aura toujours des produits sur produits. Mais Dieu peut-être va te donner un jus de fruits que tu vas prendre qui va améliorer tes cheveux. Mais là, c'est mais c'est la vérité. Parce que c'est lui qui a créé ça. Il sait quelle vitamine va marcher. Tu vas constater seulement, tu prends tel jus. Après quelques temps, les choses ont changé. Parce que tu as confié tout à la grâce de Dieu. Les gens ont fait combien de régimes? Mais livre-toi à Dieu. Dis Seigneur, je te donne mon corps. S'il me trouve gros, je suis content. Voilà. Mais je sais que tu t'occuperas. Amen. C'est le corps que Dieu a fait, bien-aimé. Psaume 139. Ah, il y a beaucoup de psaumes à citer. David dit, je suis heureux que je sois une créature merveilleuse. Est-ce que David a dit, je suis heureux, je suis mince? Non. Je suis grand de taille? Non. Je suis une créature merveilleuse. Et quand il le dit pour tous les hommes, il ne le dit pas que pour lui-même. Il le dit que tu me connaissais avant que je naisse. Donc, il parle de la personne que Dieu connaissait avant qu'elle naisse. Or, Dieu nous connaissait tous avant que nous naissions. Laissons tout entre les mains de Dieu. Toute notre vie, et puis notre vie va devenir une louange. Une louange pour le Seigneur. Comme la vie de David est devenue une louange pour le Seigneur. Voilà, c'est la même chose. Le psaume 67. Il y a des gens qui pensent que Dieu va prendre leur voiture ou Dieu va prendre leur argent. Mais qu'est-ce que lui a à faire avec ton argent? Avec ta voiture, qu'est-ce qu'il a à faire avec ça? C'est toi qui as besoin de lui, bien-aimé. Il y a des gens qui disent, ah, mais si je m'approche, ça m'empêchera d'aller boire la bière. Mais bien-aimé, tu penses que Dieu a des bières encore plus excellentes, mais qu'on trouve seulement en lisant la parole. Quand tu lis, tu dis, oh, mais ce verset-là, ça me donne la vie. Je saute de joie sans avoir bu, bien-aimé. Parce que ça vient de la parole, la gloire de Dieu. Moi, je suis contre les gens qui veulent imiter le monde dans les choses de Dieu, en copiant le monde. Moi, je dis, Dieu a des ressources infinies. Je n'ai pas besoin de faire le rock chrétien, ni le rap chrétien. Le rap et le rock, c'est pour eux. Nous, on a nos ressources, nos inspirations à nous. Parce que Dieu est infini dans sa gloire. On n'a pas à copier. Psaume 67. Au chef de chantre, avec instrument à cordes, psaume, cantique. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Et parmi toutes les nations, ton salut. Le peuple te loue, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Le peuple te loue, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. Donc même la terre va donner ses produits. Tu es dans la grâce de Dieu, ta terre va donner du produit. Tes enfants produiront. Psaume 63 de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. David dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. Nous lisons d'Apocalypse au chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5. Il est écrit ceci, au verset 11. On peut commencer au verset 8. Quand Jésus prend le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Moi, c'est mon rêve, bien-aimé, de participer à la louange qui est finale qui aura lieu là. Donc, c'est ça le rêve. Donc, ils prenaient des coupes de parfum et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était de myriades et des milliers de milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les quatre êtres vivants disaient « Amen ». Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Bien-aimés, quelle joie de faire partie de tout ça. Faire partie des gens transformés par le Seigneur pour le servir totalement. Dans la louange, dans l'adoration et dans une vie sanctifiée. Pas par nos propres forces, mais par sa grâce. Par l'esprit de la grâce. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu t'appelle, bien-aimé. Prends au sérieux l'appel de Dieu. Le nombre de morts autour de toi ne t'interpelle pas. Hier, le pasteur me parlait d'un de ses amis dont le père est mort juste en faisant une chute. Il a glissé. Et il est mal tombé, mal retombé. Donc, sa nuque s'est brisée. Il est mort comme ça. Alors que tous les jours, nos enfants font des chutes. Rien, ils sont normaux. Ça ne t'interpelle pas. Maintenant, tu ne dois pas venir à cause de la peur par rapport à ça, mais ça doit te faire réfléchir. Mais saisis la grâce de Dieu. Saisis la grâce de Dieu. Accepte que Dieu s'occupe de toi. Tu as peur de quoi pour livrer tout entre les mains du Seigneur? Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à tout donner. Nous allons chanter « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien ».